Jésus-Christ envoyé de Dieu, le Rédempteur vivant. Tous ces messages que nous allons avoir le plaisir d'entendre, une seule raison et en un seul centre, l'importance de notre Seigneur et de notre Dieu, Jésus-Christ. Et combien nous voulons que ce soit lui qui préside toutes ces réunions. Et nous avons, dans la préparation de cette convention, eu un grand fardeau à ce que chacun de nous ici puisse ressortir avec une nouvelle vision, avec une nouvelle compréhension de notre Seigneur. Et sans plus attendre, maintenant nous allons écouter ce premier thème, le monde sans Christ, développé par M. Somerville, pasteur à l'église de Paris.
Nous avons un grand privilège d'être ici. Il y a beaucoup de gens ici en France qui aimeraient être là ce soir, mais qui ne peuvent pas y être. Mais avec ce grand privilège d'être présent ici, vient aussi la grande responsabilité qui nous incombe, parce que à qui Dieu confie beaucoup, il demande beaucoup. Et nous sommes ici ce soir pour recevoir du Seigneur. Nous sommes ici ces jours-ci pour entendre sa parole, mais dans le but de la diffuser, de la faire connaître aux autres et d'aller en avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais lire maintenant pourrait être tiré d'un nouveau livre qui n'est pas encore en vente libre, mais c'est de la plume de l'apôtre Paul que nous lisons dans le 13e chapitre de son épître aux Romains, au verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et dans son épître aux Éphésiens, il y a cette petite expression « racheter le temps ». Et cette expression pouvait être mieux traduite « racheter les occasions ». Car Dieu nous donne des occasions de faire quelque chose pour lui. Et souvent, nous les laissons glisser entre nos doigts. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous devons saisir chaque occasion. Nous devons faire valoir nos dons et de faire avancer le royaume de Dieu. Notre civilisation est en train de s'écrouler devant nos yeux. Aujourd'hui, tout est accepté, tout est considéré comme normal. On m'a dit qu'il y avait un programme à la télévision où tout le monde dansait nu devant les caméras, et ils ont trouvé cela tout à fait normal. Il y a plus de 20 000 viols en France par an. Les avortements s'accroissent chaque année. Il y a 200 000 par an en France. Il y a 1 500 000 en Amérique. Si vous ajoutez les avortements dans les autres pays libres de l'Ouest, en 4 ans, le chiffre serait le même que le nombre de morts tués dans la dernière guerre mondiale. La France est en train de dépeupler à cause de cela. Il y a 122 000 jeunes filles portées disparues dans les 10 dernières années. Le chiffre réel est certainement beaucoup plus élevé. La Ligue des droits de l'homme a donné son rapport récemment, disant la torture existe pratiquement dans tous les pays du monde. Malgré tout ce que les hommes sont en train de dire et de faire pour améliorer la situation, les emprisonnements et les exécutions des personnes qui ne peuvent même pas se défendre devant un tribunal se multiplient. L'esclavage des enfants est de plus en plus répandu. Je pourrais continuer avec les statistiques, mais j'ai noté quelque chose dans le journal l'autre jour que j'aimerais vous lire. Car souvent, une illustration est beaucoup plus poignante que toute une série de statistiques. Une incroyable révélation du président de la chambre d'accusation du tribunal de Paris, François Pignier, dit ceci. C'est une terrible estimation qui nous concerne tous dans notre confort moral. Et pourtant, on croyait tout savoir sur la question. Rien qu'à Paris, 100 garçons et filles de moins de 15 ans, dont certains ont à peine 10 ans, sont des prostituées professionnelles. Nous assistons depuis la grande fracture de 1968 et la révolution de mœurs qui a suivi à un rejet des tabous se trouvant une justification théorique. Snobisme ici, faux scientisme là, curieuse liberté ailleurs. On présente deux affaires de prostitution enfantine qui peuvent un peu être présentées comme un cas général. Dans la première affaire, il s'agissait d'une gamine de 10 ans qui tapinait dans les beaux quartiers de Paris. C'était déjà une vraie professionnelle. Elle était dans une famille d'immigrés et c'était leur gagne-pain. Le deuxième cas, il s'agissait d'une enfant de 11 ans qui avait une conception spéciale de l'école buissonnière. Les enfants entre 15 et 20 ans sont évidemment beaucoup plus nombreux. Ici en France, la situation est encore meilleure que dans les autres pays de l'Europe. Par exemple, on peut citer le cas de la petite Hollandaise de 6 ans que des souteneurs ont livrée à la prostitution et à la drogue. On est moins puni là pour un tel acte qu'ici en France. Le pire de tout se trouve aux États-Unis. Où on y projette des films, où pour un prix prohibitif, des tarés assistent à des tortures sexuelles infligées à des gamines. Le spectacle se termine par l'agonie et la mort réelle de la petite fille sacrifiée. Et il finit son article en disant « Voulez-vous que je vous parle des esclaves des Philippines et encore des petits Indiens et Thaïlandais ?» Eh oui. Et oh, quand ces hommes qui pratiquent de telles choses sont pris, le jugement n'est pas très sévère. Et dans peu de temps, ils sont relâchés pour qu'ils puissent recommencer. La peine de mort a été abolie, disant que c'était pas très humain. Et on a marché pour abolir la peine de mort. Parce que c'était trop cruel de tuer un criminel qui avait torturé et tué. Mais les mêmes personnes, le lendemain, marchent pour l'avortement, pour tuer des innocents dans le sein de leur mère. Moi, je vous dis ceci. Je vous demande, ne vivons-nous pas actuellement dans un monde sans Christ? Et moi, ma réponse est non. Nous ne vivons pas dans un monde sans Christ. Nous vivons dans un monde rempli des gens désaxés. Ce sont des gens qui cherchent le plaisir plus que Dieu. Ce sont les gens qui sont menés par les passions déréglées. Nous vivons plutôt dans un monde qui refuse d'accepter le message de Christ en faveur d'une vie pleine de péchés et de perversité. Un jeune homme m'a dit l'autre jour, dites, je préfère aller en enfer que d'abandonner mon péché. Ceci est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Gloire à Dieu, Christ est toujours ici avec nous. Malgré toute la corruption, malgré toute l'incrédulité, malgré toute l'indifférence qu'on rencontre partout, Christ est encore ici. Ce n'est pas la fin de l'âge de la grâce. On peut encore être sauvé. On n'a qu'à croire en Jésus-Christ, confesser ses péchés, se mettre devant lui et le pardon est instantanément donné de la part de Christ lui-même. Il a dit, là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Et il y a certaines villes dans le monde, en Amérique du Sud, aux États-Unis, où on trouve des églises de 20 000 personnes. Je ne sais pas si vous étiez jamais dans une église de 20 000 personnes. C'est impensable pour moi. J'étais dans quelques églises de 5 000 et ça, c'était déjà énorme, énorme, énorme. Et il y a des églises de 20 000. Mais vous savez, on peut dire dans cette grande assemblée, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est vrai, Christ est là. Mais combien se précieuse cette promesse dans les pays de l'Est où justement, quelquefois, ils ne sont que deux ou trois pour se réunir ensemble. Et Christ est avec eux aussi bien qu'avec cette grande église de 20 000 personnes. C'est pas merveilleux. Jésus dit, je ne vous laisserai jamais, je resterai avec vous jusqu'à la fin de cet âge. Quel privilège pour nous de vivre ici, en France ou dans un pays libre de l'Ouest. Vous savez qu'on peut donner des traités et des prospectus librement. Oh, je sais qu'il y a une loi en France qui vous défend de distribuer les prospectus. Mais vous savez, on a donné la consigne aux agents de police que, à moins que ça soit vraiment de la matière subversive, ils doivent tourner de l'autre côté quand on arrive. Et on a même donné des prospectus et des traités aux agents de police. Ils ont dit merci. Nous pouvons dresser une tente et y prêcher l'évangile. Et ce que nous avons fait, par la grâce de Dieu, j'en ai acheté deux. Et on est allé partout. Et je connais tous les terrains vagues, je crois, dans le sud-ouest de la France. Parce que là où nous avons dressé la tente et nous avons prêché l'évangile, nous pouvons louer des salles et prêcher aussi. Nous pouvons parler aux gens librement, dans le métro, dans la rue. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas assez. Mais rien ne nous empêche de le faire. Nous pouvons planter de nouvelles églises. Nous pouvons tenir de grandes conventions, la preuve. Voilà, c'est merveilleux. Nous pouvons même prêcher à la radio. Dieu nous a donné ce grand privilège. Et notre stand est au fond de la salle. J'espère que vous allez visiter à la fin de la réunion. Nous émettons d'une station qui couvre les 10 millions de personnes de l'île de France. À la fin de chaque émission, nous avons trois téléphones alignés sur le même numéro et souvent tous les trois téléphones sonnent en même temps. Et les gens veulent connaître davantage et souvent ils demandent « Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Et nos gens restent là auprès de ces téléphones quelquefois trois quarts d'heure, une heure et jusqu'à une heure et demie pour expliquer à quelqu'un. Quelquefois c'est le lendemain que quelqu'un vient frapper qui entre dans notre église en disant j'ai entendu votre message hier soir et je suis venu pour savoir comment être sauvé. Mes chers amis, je viens d'apprendre, après avoir fait ce stand, après avoir imprimé tout ce que nous avons à distribuer, hier la station m'a téléphoné pour me dire le 1er janvier, on va me mettre dehors. Alors c'est tombé comme une bombe parce que Dieu nous a tant bénis là. Alors je vous demande de prier que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire et qu'il touche les gens là-bas pour nous permettre de continuer. On aimerait que vous leur écriviez. Et si vous visitez notre stand, il y a là une enveloppe avec l'adresse et nous serions si reconnaissants si vous écrivez. Nous aimerions que ces programmes continuent et nous serions donc comme j'ai dit, très reconnaissant. Mais un jour, tous ces grands privilèges que je viens de nommer vont s'arrêter. Oui, brusquement, le Seigneur va venir prendre son Église, son corps, son épouse, ceux qu'il aime, ceux qui se sont préparés, qui se sont lavés dans le sang de Christ. Il va les prendre pour être avec lui dans le ciel. Je lis cela dans la Bible en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et si vous avez votre Bible et vous voulez suivre ces deux lectures maintenant que je vais faire, vous êtes priés de le faire. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur, lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur Jésus-Christ ne posera pas ses pieds sur terre. Il nous appellera dans les airs à sa rencontre. C'est pour cela que ce verset n'a rien à faire avec sa venue en gloire avec ses saints pour établir son règne de 1000 ans. Il y a deux fois que le Seigneur va revenir. D'abord pour prendre son Église, cela s'appelle l'enlèvement, et l'autre fois quand il viendra avec son Église pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Ce sont deux événements tout à fait différents. Alors, quand cet enlèvement de l'Église aura lieu, tout changera. Alors, ça sera un monde sans Christ. Je vais le dépeindre dans quelques minutes, mais avant de le faire, j'aimerais que vous regardiez 2 Timothée chapitre 2 et au verset 4. 2 Timothée 2, 4. L'adversaire, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, quand l'apôtre Paul est allé dans une ville? Il n'a pas simplement évangélisé les gens, mais dans les quelques jours qu'il était présent souvent, il était capable de leur parler du retour de Christ et de mettre dans le cœur de ces chrétiens cette espérance vivante que peut-être un jour ils ne mourront pas, mais qu'ils partiraient vivants vers le ciel. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est-à-dire, vous savez ce qui empêche l'Antichrist de se révéler afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Qu'est-ce qui empêche que l'Antichrist se révèle? Nous, qui connaissons Jésus-Christ, car aussi longtemps que nous sommes ici sur terre, l'Antichrist ne pourrait pas se manifester. Il faut qu'il attende la disparition de ce monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus-Christ nous a appelé le sel de la terre pour arrêter la corruption. Nous avons un rôle, nous avons un ministère dans le monde. Nous qui connaissons Jésus-Christ, ce n'est pas simplement de venir à l'église le dimanche matin, mais c'est de prendre une position contre le péché, contre l'apostasie, contre tout ce qui est mal, de se tenir devant cette avalanche du mal en disant « Moi, je suis sauvé et je ne fais pas comme les autres. » Nous avons donc un ministère à accomplir. Et je ne parle pas uniquement aux pasteurs, je parle à chaque chrétien. Nous avons une place à garder. À l'usine, à l'école, partout où nous sommes différents, nous sommes revêtus de la gloire et de la joie de Christ. Et de ce fait, nous avons notre ministère comme ambassadeur pour Christ, chacun de nous. Et puis, une fois que le sel de la terre, la lumière de ce monde sera enlevée, mes chers amis, alors, le monde sera sans Christ. Alors, on va voir ce qui va se passer. L'Antichrist va se révéler à ce moment. Mais il est impossible de parler de l'Antichrist sans parler de politique. Parce que c'est un personnage qui sera à la fois un personnage politique comme un personnage religieux. Et ceci n'est pas nouveau. Ce fut le cas de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de l'Empire babylonien, mais il était aussi celui que le peuple adorait. Il a même demandé qu'on érige une grande statue à sa ressemblance et devant laquelle tout homme devait fléchir le genou. Il était donc Dieu et empereur, personnage religieux, personnage politique. César, au temps de l'apôtre Paul. Paul a dit, Jésus est le Seigneur. C'est lui qu'on doit adorer. Mais chaque fois que l'apôtre Paul prononçait ces mots, il les prononçait contre le gouvernement romain. Parce que le gouvernement romain disait, il n'y a qu'un seul Dieu, César. Et c'est devant César que tout le monde doit fléchir le genou. Vous savez, il faut du courage, quelquefois, de prendre position pour Christ. On n'est pas toujours aimé. Et l'apôtre Paul a appris sa leçon parce qu'on l'a décapité. Ce n'est pas toujours facile, mes chers amis, de vivre pour Christ, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous n'avons pas de choix. Nous devons marcher avec lui. Comment savons-nous donc ce qui va se passer? La Bible dit que l'Antichrist sera un personnage politique, mais il va aussi être un personnage religieux, parce qu'il va être à Jérusalem, il va se déclarer Dieu, et il va obliger tout le monde de l'adorer. Comment savons-nous que la venue de Christ est proche? Nous trouvons cela en Matthieu. Beaucoup peut-être parmi vous le connaissent déjà, mais cela ne fait pas de mal de le regarder de nouveau. Car en Matthieu chapitre 24, à la réponse d'une question que les disciples lui ont posée, Jésus donne la réponse. La question est, quels seront les signes de ta venue à la fin des temps? Quels seront les signes? Quand est-ce que tu vas revenir? Il a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Et puis il ajoute, je vous le dis en vérité, cette génération, quelle génération? Mais la génération qui verra le figuier pousser des branches. Le figuier dans la Bible, comme la vigne et l'olivier, symbolise le pays d'Israël. Quand vous verrez Israël naître, sachez que la génération qui verra naître Israël sera la génération qui verra la fin de toutes choses. Regardez, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Israël est la réponse. En 1948, l'horloge de Dieu a commencé à compter et on voit de plus en plus l'heure avancer. Nous sommes maintenant en 1984. Dans 4 ans, ça va être 40 ans. On va célébrer le 40e anniversaire de la naissance d'Israël. On s'approche maintenant très près de la fin. Il est bien temps de se réveiller. Il est bien temps maintenant de commencer à compter nos jours et les faire valoir pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a donné d'autres signes. Et entre autres, il a donné les tremblements de terre. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 200 fois plus de tremblements de terre maintenant qu'il y a 100 ans. 200 fois de plus. Il a parlé des famines de plus en plus nombreuses. Vous le savez aussi bien que moi, que le monde risque de perdre 6 millions de ses habitants par la faim. Que 6 000 meurent chaque jour en Éthiopie seule. 6 000. Des famines telles que le monde n'est jamais vue. Tout avance. Mais parce qu'on ne voit pas ici à Paris un tremblement de terre, parce qu'on ne voit pas le ciel s'ouvrir, on a l'impression que tout continue comme depuis toujours. Vous savez qu'il est difficile de se réveiller du sommeil. Vous savez qu'il est difficile de se rendre compte que nous sommes à la fin des temps. Vous savez qu'il est difficile de se lever en disant, je vais faire quelque chose pour Christ avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a un sommeil spirituel qui est descendu sur l'église de Jésus-Christ à tel point que c'est tout juste si on ouvre la bouche pour le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, on est à la veille de son retour. On est à la veille de son retour. Il y a deux choses qu'on ignore. C'est que, avec l'enlèvement de l'Église si proche, c'est que la première chose, c'est que l'Antichrist est déjà sur la terre. Mais ça va de soi. Si l'Antichrist va se révéler aussitôt que l'Église est partie, il va de soi que si l'Église va partir d'un moment à l'autre, l'Antichrist doit être vivant et bien sur terre quelque part. Et cela est le cas. Je pourrais vous donner quelques raisons pour lesquelles je sais que l'Antichrist est sur la terre, mais je ne vais pas le faire ce soir. L'Antichrist, deuxième chose, c'est que l'Antichrist ne prendra pas sa place à la tête des 10 nations, tout seul, mais qu'il y a actuellement dans le monde plusieurs milliers de personnes qui travaillent activement pour préparer son entrée au pouvoir. Ceci j'ignorais jusqu'à quelque temps. Je pensais que l'Antichrist allait simplement se lever en disant « Me voici » et prendre le pouvoir. Je ne savais pas qu'il y avait tant de monde qui travaillait activement pour qu'il se présente et qui savent déjà qu'il est sur terre et qu'il attend qu'il se présente. Il y a, entre autres, des grandes organisations monétaires composées des hommes des plus riches du monde, travaillant pour un gouvernement mondial, et en plus, qui savent que leur chef sera l'Antichrist lui-même. Et quels sont ces mouvements? Vous avez le Council on Foreign Relations, le CFR des États-Unis. Vous avez la commission trilatérale, composant l'Europe, le Japon et les États-Unis. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on a voté. Ce sont des grands millionnaires du monde qui se sont mis ensemble pour contrôler les affaires du monde entier. Vous avez ici en Europe les Bilderbergers, composés des hommes les plus riches de toute l'Europe. Et ces trois groupes travaillent ensemble, forment une pyramide, et dont les chefs à la tête sont des hommes extrêmement puissants et qui contrôlent et qui influencent des gouvernements. À tel point, ce n'est pas forcément le président d'une république qui dirige la république, mais c'est un Bilderberger. C'est quelqu'un de cette commission trilatérale ou autre qui dirige et qui contrôle. Vous avez en plus de cela les sociétés secrètes, des loges. Tous ceux qui font partie de ces loges ne sont pas forcément au courant du but principal, mais le but principal de toutes les loges, c'est d'installer sur la terre un gouvernement mondial dont ils seront à la tête. Aucun chrétien ne doit faire partie d'un de ces loges, parce que ça travaille activement pour Satan et pour l'Antichrist. Et je dis ça solennellement parce que j'ai rencontré déjà même des pasteurs qui faisaient partie. En plus de cela, vous avez des sociétés occultes, des organisations, des religions occultes. Les hommes qui sont à la tête de ces pyramides travaillent ensemble. Les Bilderbergers, les loges, et quelquefois ce sont les mêmes hommes. Je pourrais citer les noms. J'ai des noms même à la maison. Des noms qui vous choqueraient. Et ces hommes-là connaissent leur but et qui travaillent. Mais la plupart des gens l'ignorent. Ils travaillent pour cet homme. Ils savent aussi qu'il est vivant et qu'il attend son moment. Pourquoi ne se révèle-t-il pas? Pourquoi ne prend-il pas le gouvernement entre ses mains? Je vous ai dit, parce que l'Église de Jésus-Christ est encore là. Il ne peut pas se révéler tant que nous sommes présents. Alors, que va-t-il se passer? Dans son dernier livre, « Où va l'Europe ?», Jacques Chirac explique clairement le but de l'Europe. Il disait que l'Europe s'occupe de l'agriculture, la technologie, mais surtout de la défense. Il ajoute aussi qu'il est personnellement contre une Europe fédérale, une Europe avec un seul gouvernement, préférant que chaque pays garde son indépendance. Est-ce qu'il va réaliser cela? La Bible dit que non. La Bible dit clairement qu'à la fin des temps, l'ancien empire romain, composé de 10 nations, renaîtra, et cet homme tant attendu fera son entrée et régnera sur une Europe fédérale avec un seul gouvernement, C'est uniquement une question de temps. Personnellement, je crois que l'Antichrist ne sera pas qu'un homme, mais qu'il sera le fils, littéralement, de Satan, ayant eu commerce avec une femme. Je crois qu'il vit, je crois qu'il va imiter Christ dans sa naissance et dans une résurrection. Cet homme se prépare à l'heure actuelle de venir et de prendre le contrôle. Alors, ça sera un monde sans Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un monde sans Christ? Ça veut dire d'abord un monde totalement réglementé. On perfectionne de plus en plus des cartes de mémoire, des cartes à mémoire. Ces cartes, vous savez, qui permettent d'aller dans un magasin et acheter sans argent. On glisse la carte et c'est tout. Et ces cartes sont de plus en plus perfectionnées. Je pourrais vous porter ce soir les derniers créés par Bull. Mais tout ceci sont les choses qui préparent pour le moment où on portera sur la main droite ou sur le front une marque. Et au lieu d'avoir une carte, on se présentera avec cette marque. Sans la marque, on n'achète ni on ne vend. Il n'y aura aucune liberté. Il n'y aura pas d'église. On va bientôt célébrer Noël. Noël cessera. Il n'y aura pas Pâques. Il n'y aura pas une mention de Christ. Des ténèbres spirituelles couvriront la terre. Un monde tout entier trompé, aucune lumière nulle part, aucune possibilité de connaître la voix du Seigneur. Sur les places publiques, les guillotines vont de nouveau pousser pour mettre à mort ceux qui se rebellent et refusent la marque de la bête. On m'a demandé l'autre jour, les guillotines, vous croyez qu'on va les... c'est réel ou c'est simplement figuratif dans la Bible? Non, c'est trop clair. En Apocalypse, chapitre 13 et au verset 14, nous lisons ceci. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. J'ai dû me tromper du texte. En chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils seront décapités. Les guillotines placées sur les places publiques serviront comme leçon à tous ceux qui ne veulent pas accepter ni adorer la bête. Et ils mourront là. Quand on pense qu'aujourd'hui, en fléchissant le genou, on peut accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux. Tout le monde dénoncera son père, sa mère et son frère. Vous avez souvent, beaucoup parmi vous ont lu le livre 1984, et grand frère vous regardera, un règne de terreur, un moment horrible, le règne de l'Antichrist, du péché. Alors maintenant que nous savons tout ceci, maintenant que nous savons que le monde prépare pour l'arrivée de l'Antichrist, que pouvons-nous faire pour l'arrêter? Pour arrêter ces hommes qui veulent mettre un monde, un gouvernement mondial et qui veulent régner et introduire un règne de terreur. Que pouvons-nous faire pour l'arrêter? Rien du tout. C'est trop tard. Tout est en place. Beaucoup plus que vous le pensez. Nous ne pouvons pas arrêter l'empire mondial. Tout ceci est écrit dans la parole de Dieu. C'est une question de temps seulement. Jésus a dit, quand il était là à la croix, et que ses disciples étaient autour de lui, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous non plus, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à combattre l'Antichrist. Nous ne sommes pas appelés à combattre ces grands mouvements mouvements mondiaux pour dans ces derniers jours. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Avant que la Chine ne se ferme, je me rappelle en 1950, je me rappelle combien les missionnaires revenant de la Chine ont plaidé que des gens aillent là-bas, leur annoncer l'Évangile. Il y avait peu de gens qui se sont levés. Et brusquement, la porte ferma. Et à ce moment, j'étais dans les réunions avec des chrétiens où il y avait des missionnaires et où il y avait beaucoup de pasteurs et des jeunes. Et j'ai vu des gens qui disaient, « Oh, prions pour la Chine. Oh, c'est dommage que la Chine est fermée. Oh, si elle était ouverte, je partirais tout de suite. Oh, c'est dommage, oui. » Quand la porte était fermée, tout le monde était inquiète. La même chose est arrivée avec la Russie. On avait un moment où on pouvait aller en Russie, mais brusquement la porte était fermée. Et une fois la porte fermée, tout le monde voulait y aller. Je me rappelle quand le général MacArthur est revenu du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, il a plaidé devant les Américains d'aller là-bas. Il a dit, les Japonais maintenant sont ouverts. C'est le moment de semer la parole de Dieu. Ils ont dit non, on a autre chose à faire. Et maintenant, c'est trop tard. De nouveau, la vieille religion est venue et on ne peut plus rien faire au Japon. J'ai remarqué dans ma vie chrétienne qu'on est toujours en train de frapper sur les portes qui sont fermées et nous ne poussons pas les portes qui sont déjà entrouvertes. Nous plaidons constamment, Seigneur, ouvre-moi cette porte, ouvre-moi cette avenue. Seigneur, fais quelque chose d'extraordinaire là où tout est fermé. Et à côté de cela, il y a une porte ouverte ici, une autre porte ouverte là. Mais nous n'entrons pas là où la porte est ouverte. Nous préférons rester, plaider et frapper sur les portes qui sont fermées. Le moment, mes chers amis, où nous commençons à entrer dans les portes entrouvertes, Dieu va ouvrir encore d'autres portes. Et de cela, j'en suis persuadé. Il nous faut déjà faire ce qu'on peut faire et compter sur le Seigneur de nous ouvrir beaucoup d'autres portes. Il y a ici devant nous tout un pays. Tout un pays qui est loin de Dieu et qui est indifférent à la parole de Dieu. Mais si nous commençons à parler, si chacun ici était enflammé pour Jésus-Christ, je suis persuadé que dans peu de temps, avec la puissance du Saint-Esprit sur nous, regardons ce que Dieu a fait avec les disciples. 120, et ils ont bouleversé la ville de Jérusalem et tout le pays d'Israël et dans le monde entier, dans une seule génération. Il s'agit d'avoir le feu, mes chers amis. Il s'agit de pousser des portes qui sont déjà entrouvertes. Connaissant l'heure dans laquelle nous vivons, nous devons être vigilants et toujours marchants en avant. Bientôt, il n'y aura plus de réunion de prière. Et nous pourrions lamenter le fait que d'ici quelque temps, les gens ne pourront plus se réunir pour prier. Oui, mais nous qui pouvons maintenant prier, est-ce que vous êtes présents dans les réunions de prière là où il y en a une? Il paraît que dans la plupart des églises, la réunion la moins fréquentée, c'est la réunion de prière. La réunion la plus fréquentée, c'est quand on a un souper à l'église. Ce n'est pas étonnant que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Ce n'est pas étonnant qu'on n'est pas viril pour Christ. Ce n'est pas étonnant que nous ne sommes pas en train de renverser tout. On subit tout, au lieu d'être première ligne, quand j'étais un jeune homme ici en France, on est venu me dire, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, j'attends les événements. C'était toujours mon expression, j'attends les événements. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu me voir, il a dit, alors qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'attends les événements. Ah, il a dit, il ne faut pas les attendre, il faut les créer. Et ça m'a touché au cœur. C'est pas la peine d'attendre que tout arrive. C'est à nous à les faire arriver. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais il faut se relever, il faut se réveiller pour le faire. Il y aura un jour où il n'y aura plus d'occasion de témoigner. Mais est-ce que nous sommes en train de témoigner maintenant? On ne va pas donné des prospectus. Mais est-ce qu'on les donne maintenant? Est-ce qu'on invite les gens aux réunions? Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou pour Dieu? Est-ce que nos vies comptent pour le Seigneur et pour l'éternité? Il n'y a plus de temps. C'est maintenant ou jamais. Ce soir, j'aimerais que chacun ici considère sa vie. Comment vous la menez? Je suis avec vous, mes chers amis. Je suis un homme aussi, avec les mêmes tentations, les mêmes faiblesses, les mêmes désirs de dormir le matin, les mêmes désirs de ne pas aller au travail. Les mêmes, tout ce que vous avez, je ressens. Mais le temps est court. Et si jamais nous, comme un peuple de Dieu, nous allons faire quelque chose pour Dieu, il est temps de se réveiller. Est-ce que votre vie est propre devant le Seigneur? Est-ce que vous avez des péchés cachés encore dans votre vie? Il faut un jour dans votre vie finir avec tout cela. C'est dur de dire, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, mais je veux toi plus que toute autre chose. Je veux vivre pour toi. Vous savez vous-même que peut-être vous n'êtes pas totalement consacré. Vous avez des péchés non confessés dans votre vie. Peut-être vous avez fait des choses contre un frère et vous n'avez pas confessé cela devant lui. Vous vivez une vie égoïste. Vous préférez plutôt rester chez vous que d'aller rendre visite chez quelqu'un. Vous travaillez pour cette vie. Vous avez beaucoup plus peut-être en vue ce que vous allez faire cet été comme vacances que comment vous allez gagner votre voisin pour Christ. Nos vies sont égoïstes. Nos cœurs, notre cœur n'est pas tout entier à lui. Nous avons dit, Seigneur, prends tout. Et au moment même, nous étions sincères. Mais laissez tranquille quelque temps après, nous avons repris tout ce que nous lui avons donné. Nous avons dit, Seigneur, me voici, je me mets à ta disposition. Et puis après, cette consécration s'est effritée. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu, nous ne sommes pas des hommes de prière. Vous savez vous-même que vous n'avez pas prié comme il fallait. Vous avez négligé ce temps avec Dieu. Depuis quelque temps, peut-être votre cœur est plus froid que jamais. Ces heures que vous avez connues autrefois près du Seigneur, quand Christ vous a parlé personnellement, vous ne les sentez plus. Vous avez eu à un moment donné une flamme qui brûlait. Vous avez pleuré pour les inconvertis. Vous avez demandé à Dieu de faire quelque chose. Mais depuis longtemps maintenant, tout ceci est derrière vous. Vous êtes inondé par mille et une choses, et c'est tellement facile, mes chers amis, de dormir. Dieu nous dit aujourd'hui de se réveiller. Oh, qu'est-ce que Dieu ne pourrait-il pas faire avec nous si chacun de nous disait, Seigneur, pour une fois, je veux me donner tout entier à toi. Vous connaissez où vous en êtes. Moi, je sais, un jour, j'étais obligé de dire, Seigneur, je sais que ma consécration ne vaut rien. Seigneur, je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne doivent pas y être. J'étais obligé de venir à lui et de dire, Seigneur, maintenant je veux tout donner. Et ça m'a coûté cher. Et le Seigneur a dit, tu donnes ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Vous savez, quand j'ai fini, j'ai dit à quelqu'un, il me semble que je suis mort. Il ne me reste plus rien dans cette vie, autant que le Seigneur me prenne. Mais la consécration est merveilleuse. C'est dans la consécration où Dieu peut nous visiter. Nous pouvons crier tant que nous voulons, « Oh Dieu, bénis-nous !» Mais tant qu'il ne voit pas la sincérité dans notre cœur, il ne le fera pas. Chacun de nous sait ce qu'il doit abandonner. Chacun de nous sait ce qu'il y a dans sa vie qui l'empêche d'aller jusqu'au bout. On s'accroche à quelque chose, mais on n'a pas la victoire. Quand est-ce qu'on va tout lâcher? Moi-même, je ne voudrais pas donner l'appel. J'aimerais que ça soit Dieu qui donne l'appel. J'aimerais que ça soit lui qui nous parle. Moi, j'ai besoin de lui. Oh, quand je regarde Paris, quand je regarde ce pays, qui n'a pratiquement jamais vu une visitation de l'Esprit de Dieu, je dis, oh Dieu, fais quelque chose dans ces derniers jours. Réveille ton peuple. Oh, qu'ils oublient toutes leurs petites différences. qu'ils oublient tout et qu'ils commencent à s'accrocher à toi. J'aimerais maintenant, je ne veux qu'aucun bouge de sa place. J'aimerais que tout le monde reste là où il est. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que Dieu a parlé avec à quelqu'un ce soir en disant, je veux que tu te donnes tout entier à moi. Et vous avez senti que Dieu, vivant dans cet âge où nous sommes juste à la veille de sa venue, vous dit, Seigneur, prends tout. Pas la moitié, mais tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a entendu la voix du Seigneur, non pas la mienne, mais le Seigneur vous a dit, lâche ça, donne ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève, là où il est, pas qui s'avance, mais qui se lève, là où il est, en disant, me voici Seigneur, je veux que ma consécration soit totale, je veux être tout entier à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève? Je vais attendre un moment que Dieu parle à notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever en disant, moi aussi? Oui, je la vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, oui, je veux tout donner au Seigneur? Alors maintenant, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui dit, je n'ai jamais accepté Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, mais ce soir, vous pouvez vous asseoir, ce soir j'aimerais donner mon cœur à Christ. Je veux qu'il soit mon sauveur. Je ne veux pas être sur la terre quand l'Antichrist vient. Je sais qu'il va venir bientôt, mais moi je veux être sauvé ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, moi, levez-vous là où vous êtes. Vous dites, moi je veux être sauvé ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit cela ce soir, qui se lève, qui dit, voilà, je veux être sauvé ce soir même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève? Je vais demander maintenant à Alain de venir ici me diriger dans un chant.
Je vous invite à prendre le numéro 5. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Quand le Seigneur parle, c'est au cœur, c'est à l'individu. Mais le Seigneur peut parler à beaucoup de cœurs, ce qui fait aussi une foule. Et c'est merveilleux quand beaucoup se tournent vers Dieu et se donnent à lui. Chantons.